Vous venez de l'entendre, le Christ souhaite que nous puissions former un seul corps, que nous puissions être un, unis, comme le Père et le Fils sont unis. Et ce soir, nous célébrons la messe pour Notre-Dame de l'unité, parce que la Vierge Marie est celle qui ce soir va spécialement intercéder pour nous, pour que nous puissions vivre cette unité qui n'est pas toujours facile, unité entre nous, unité intérieure quand il s'agit de tenir en nous les différentes choses de notre vie, parfois notre volonté qui nous dit de faire quelque chose, nos désirs qui nous disent de faire autre chose. Et cette unité entre chacun, chacune d'entre nous et le Christ qui vient en ce moment, qui est là au milieu de nous, qui vient nous rassembler. Aujourd'hui, nous fêtons la Vierge Marie à double titre. D'abord parce que dans le diocèse de Paris où nous sommes, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a eu un événement très important en 1830, c'est l'apparition de la Vierge Marie à Sainte-Catherine-Labourée. C'est aujourd'hui la fête de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Le 27 novembre 1830, Sainte-Catherine rapporte que, alors qu'elle faisait oraison le soir à 17h30, avec les autres membres de sa communauté rassemblés autour d'elle, la Sainte Vierge lui est apparue. Elle décrit comme ça la Sainte Vierge. Elle dit « J'ai aperçu la Sainte Vierge debout, tout habillée de blanc, une taille moyenne, la figure si belle qu'il me serait impossible de dire sa beauté. » Elle avait une robe de soie blanche aurore. Elle porte un manteau bleu argenté et un voile blanc aurore qui couvre sa tête. La Vierge se tient debout sur un globe, piétinant un serpent. Elle a 12 étoiles autour de la tête. La Vierge tient dans ses mains un globe terrestre doré, surmonté d'une petite croix. Les mains sont au niveau de l'estomac et de ses mains partent des rayons de lumière. Le visage de la Vierge est tourné vers le ciel. Elle porte au doigt des anneaux avec des pierres de différentes couleurs d'où jaillissent des rayons de lumière sur le globe à ses pieds. Tout autour de lui, tout autour d'elle, apparaissent ces mots « Ô Marie, conçue sans péché ». Priez pour nous qui avons recours à vous. » La Vierge baisse les yeux, regarde Sainte Catherine et lui dit « Cette boule que vous voyez représente le monde entier, particulièrement la France et chaque personne en particulier. Les rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me le demandent. Oui, en 1830, la Vierge est apparue à Sainte-Catherine. Elle lui a fait comprendre qu'elle déverse ses grâces sur le monde entier, sur la France, sur chacun, chacune d'entre nous ici réunis, puisqu'elle continue. Et vous savez qu'en 1830, il y a une épidémie de choléra qui se déverse sur l'Europe, qui va atteindre Paris en 1832. Et qui va faire 20 000 morts. En 1832, c'est justement le temps qu'il a fallu entre les apparitions et la décision de faire imprimer les médailles. Alors les médailles de la Vierge, de la Notre-Dame, de la Médaille Miraculeuse vont se répandre partout selon la description de Catherine et l'épidémie de choléra va s'arrêter en 1832. Alors évidemment, pour nous, ce soir, c'est très parlant, hein, parce que c'est vrai qu'il y a cette épidémie de Covid qui semble s'installer dans le monde entier Et je crois qu'il est très bon pour nous ce soir d'implorer Notre-Dame de la médaille miraculeuse, pas forcément d'abord pour nous, mais pour toutes les personnes les plus exposées à la maladie, toutes les personnes qui sont en train de souffrir de cette maladie, toutes les personnes qui ont connu aussi des deuils liés à cette maladie, toutes ces personnes qui sont empêchées de bouger à cause de cette maladie. Prier Marie, évidemment, ne dispense pas ni des soins ni des vaccins. La Vierge Marie nous aide. Elle nous invite aussi, comme elle l'a fait elle-même, à utiliser toute l'intelligence de son époque pour veiller sur chacun. Mais je pense à la Vierge Marie, à Cana, qui veillait pour que chacun ne manque de rien. Vous voyez, elle avait ce regard pour que chacun ne manque de rien, y compris le vin pour la fête. Et ce vin, vous savez, il symbolise aussi cette union que le Christ veut avoir avec chacun, chacune d'entre nous. Alors ce soir, ça c'est la première partie, la première raison pour laquelle nous pouvons fêter la Vierge Marie en ce temps de l'Avent, c'est fêter Notre-Dame de la médaille miraculeuse, implorer sa miséricorde, implorer sa bonté, ses rayons de grâce pour chacun, chacune d'entre nous, pour toutes les personnes que nous connaissons. Et puis, la deuxième raison pour laquelle nous fêtons ce soir Notre-Dame, Notre-Dame de l'Unité, c'est le temps de l'Avent. Nous rentrons dans le temps de l'Avent avec cette nouvelle année liturgique. Nous sommes heureux de fêter Marie, Notre-Dame de l'Unité, parce que Marie fait cette unité entre tous les peuples, elle fait cette unité en nous et cette unité entre nous et le Christ. Et c'est justement ce dont nous avons besoin pour ce temps de l'Avent. En ce temps de l'Avent, nous avons besoin de la Vierge Marie pour essayer d'y voir clair dans notre vie. Le monde passe très vite, les événements s'enchaînent. Il n'y a pas simplement l'épidémie dont je viens de parler, il y a aussi au niveau mondial des conflits, des guerres, des réchauffements climatiques. Plus près de nous, il y a des conflits sociaux, le chômage, la frénésie de consommation avant Noël, la difficulté de vivre dans un monde difficile, d'élever nos enfants dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de solidarité. Et alors c'est très difficile d'y voir clair. Et donc nous avons besoin que Marie nous aide pour redresser la tête, pour lever le nez du guidon, on dit quand on fait du vélo. Vous voyez, c'est-à-dire pour voir un peu plus loin et pour se dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» et demander à la Marie de nous aider justement à trouver cette réponse, de nous aider à accueillir le Christ qui vient pour nous aider. Marie est celle qui, avec son « oui », a permis que le Seigneur vienne partager notre humanité et donc vienne partager notre vie. Aujourd'hui, elle connaît très bien notre situation. Marie, elle est très proche de chacun, chacune d'entre nous. Elle a vécu comme nous. Elle a vécu dans une situation qui n'était pas facile. Elle n'était pas spécialement favorisée. Elle était comme tout le monde. Mais vous savez que la Palestine était occupée par les Romains. Les conditions de vie étaient difficiles. Il y a des gens qui attendaient un Messie, il y avait beaucoup de paroles et ce n'était pas facile d'y voir clair. Et Marie, elle a su garder le cap et elle a su être celle qui a dit oui. Alors ce soir, j'ai envie de vous donner 15 bonnes raisons de laisser une plus grande place à Marie dans votre cœur. Vous êtes prêts? 15. Première raison. Eh bien, Marie, c'est d'abord le modèle d'une femme consacrée à Dieu de manière volontaire depuis son enfance. Et ça, c'est une très bonne raison. Elle nous apprend à offrir notre vie dans la durée à Dieu. Elle nous apprend à renouveler notre jour, notre oui, chaque jour à Dieu. Et même quand les événements de notre vie nous bouleversent, que nous avons du mal à comprendre la volonté de Dieu, Marie, elle nous dit « Fais confiance ». Moi, je lui ai fait confiance dès mon enfance. Chaque jour, j'ai dit oui à Dieu. Et c'est grâce à ça que le salut est venu dans le monde. Alors, premièrement, Marie, c'est le modèle d'une personne consacrée à Dieu de manière volontaire depuis son enfance. C'est elle qui nous apprend à dire oui chaque jour. Deuxième raison, Marie, c'est celle qui nous apprend à nous enraciner dans la parole de Dieu. Marie, elle est tellement enracinée dans la parole de Dieu qu'elle peut un jour comprendre et accueillir le message de l'ange. Vous savez, c'est un peu étonnant parce que dans le récit de l'Annonciation, on a l'impression que tout se passe en 5 minutes. Voilà, l'ange apparaît, il dit à Marie la formule, elle dit oui. Mais en réalité, Marie, elle s'est préparée toute sa vie à ça. Et si Marie a pu comprendre le message de l'ange, c'est parce qu'elle a lu la parole de Dieu, elle a médité la parole de Dieu. Elle regarde le monde avec le prisme de Dieu. Et du coup, elle comprend l'ange. C'est pas évident de comprendre les anges, c'est même pas évident de les entendre, c'est pas évident de les voir. Mais Marie, elle peut voir l'ange Gabriel, elle peut le comprendre, elle peut l'entendre parce qu'elle est plongée dans la parole de Dieu depuis sa naissance. Et donc ça, c'est la deuxième bonne raison d'accueillir Marie dans notre vie, c'est que Marie est celle qui est plongée dans la parole de Dieu depuis son enfance et qui nous apprend, nous aussi, à être plongés dans la parole de Dieu pour accueillir la parole du Messie. Troisième raison, Marie, elle est celle qui nous apprend à être dans l'attente du salut. Vous voyez, parfois on peut se décourager, on peut se dire, oh là là, la vie c'est toujours la même chose, ça fait des années que je lutte, je fais à peu près toujours les mêmes péchés, j'ai toujours les mêmes difficultés, j'ai du mal à éduquer mes enfants, j'ai du mal à faire ce que j'ai prévu. On peut se dire, à quoi bon ? Voilà. Eh bien, Marie, elle pouvait se dire la même chose, parce que ça faisait des années qu'on promettait l'arrivée d'un Messie. Eh bien, Marie, elle ne s'est jamais découragée. Elle était celle qui attendait le salut, qui avait les yeux tournés vers le ciel en espérant que le Christ vienne et nous invite nous aussi à avoir les yeux tournés vers le ciel en attendant que le Christ revienne. Et chaque jour dans notre prière, nous disons « Que ton règne vienne ». On y croit ? Ben oui, on y croit. C'est la Marie, elle nous aide à y croire, à penser que oui, le règne de Dieu peut venir. Troisième raison. Quatrième raison, Marie, c'est la première à avoir compris qu'en Jésus, Dieu s'est fait chair. C'est-à-dire que c'est la première à l'avoir accueilli dans son sein. C'est pas toujours facile de croire que Jésus s'est fait chair, que Jésus est vraiment là, présent dans notre monde. Et Marie, elle nous aide à ça parce qu'elle a touché ça dans sa chair elle-même. Et donc c'est celle qui peut nous aider quand nous avons du mal à croire que le Christ est présent dans notre vie. Tournons-nous vers Marie, elle va nous aider à le faire. Cinquième raison, Marie, c'est la figure de l'attention délicate portée à Jésus dans notre vie pour que celui-ci grandisse en intelligence et en sagesse. Vous voyez, Marie, elle n'est pas simplement celle qui a reçu Jésus dans son sein, elle est celle qui l'a éduqué avec Joseph. Et elle a fait cette éducation avec une telle délicatesse que Jésus a pu grandir en intelligence et en sagesse, nous dit l'Écriture, dans sa famille. Et alors ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse grandir en intelligence et en sagesse en chacun d'entre nous et dans l'Église. Alors, il y a du travail, mais en accueillant Marie, on va réussir à être suffisamment doux et en même temps suffisamment ferme pour pouvoir laisser une vraie place à Jésus dans notre vie. Avoir cette attention constante à ce que Jésus grandisse dans notre cœur, à ce qu'il prenne progressivement le plus de place pour que nous puissions ne faire qu'un avec lui et avec les autres. Sixièmement, Marie, c'est celle qui nous décentre de nous-mêmes dans la durée, qui nous permet de nous attacher à Jésus dans un chemin de persévérance. Vous voyez, Marie, elle méditait chaque jour ces événements dans son cœur. Et elle nous apprend, nous aussi, progressivement à nous décentrer de nous. Avec Joseph, elle était très inquiète quand elle a retrouvé Jésus au temple. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Jésus leur a dit, mais ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Ça ne devait pas être facile à entendre. Hein. Si vous avez été les parents, là, je ne pense pas que vous ayez été très très contents de ce qui s'est passé. Et pourtant, Marie, c'est celle qui progressivement a accepté de se décentrer d'elle-même pour laisser le Christ être premier dans la Sainte Famille et être premier dans l'humanité. Puis Marie, c'est celle qui nous apprend à être des disciples du Christ toute notre vie. Voilà, Marie, elle a marché à la suite du Christ. Elle était là depuis le début. Elle a accueilli, fait grandir le Christ, puis après elle est devenue une disciple du Christ. Elle l'a suivi dans ses pérégrinations. Elle était là au pied de la croix. Elle était auprès des apôtres au moment de la Pentecôte. Elle est restée au début de l'Église. Marie, c'est la disciple par excellence. Et si nous accueillons Marie, nous serons, nous aussi, être des disciples qui accompagnent le Christ toute notre vie. Marie, c'est aussi celle qui a cette finesse, cette délicatesse, cette vigilance pour veiller à ce dont les gens ont besoin. Elle est un peu comme les anges. Il y a une très belle intercession, le jour de la fête des anges gardiens, on dit que les anges, c'est les serviteurs des désirs de Dieu. Eh bien, je crois que Marie, elle est aussi servante des désirs de Dieu. Elle nous appelle à être nous aussi des serviteurs des désirs de Dieu. Ça veut dire pas simplement faire des choses bien, mais se demander de quoi mon voisin il a besoin. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Vous voyez à Cana, quand elle dit « ils n'ont plus de vin ». Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? De quoi ils ont besoin? Et Marie, elle nous apprend à faire ça. Vous voyez, elle nous apprend à regarder les gens en disant « qu'est-ce qui leur ferait plaisir ?» Et puis, Marie, elle est aussi une humble servante. Vous voyez, si quand elle était à Cana et qu'elle a dit aux serviteurs « tout ce qu'il vous dira, faites-le », pourquoi les serviteurs ont obéi à Marie? Parce qu'ils ont reconnu en Marie une femme qui s'était fait servante comme eux. Marie, c'est elle qui sait se faire serviteur. Voilà. Elle sait rester du côté des humbles. Et ça, c'est très important. Marie, c'est celle qui nous apprend à rester du côté des humbles. Ça va, vous ne dormez pas? J'en suis qu'à 9, maintenant il y a encore 5. Ça va? Bon, 6. Allez, la 10 maintenant. Voilà. Marie, c'est celle qui se retourne vers Jésus pour intercéder. Voilà. Elle ne cherche pas des formules extraordinaires, elle ne fait pas des intercessions de 3 pages, tout ça. Non, elle dit simplement ce qui manque. Voilà. Elle ne s'impose pas, ils n'ont plus de vin. Voilà. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle a confiance. Elle partage tout simplement sa vision maternelle. Alors parmi vous, il y a beaucoup de mamans. Alors, je crois que ce que le Seigneur nous demande, parfois dans notre prière, c'est simplement de partager notre vision maternelle. Notre amour maternel, notre bienveillance. Et la Vierge Marie, elle nous invite à le faire avec confiance. Ensuite, 11e, on pourrait dire, comme dans la tradition protestante, qu'une fois au ciel, Jésus n'a plus besoin de Marie pour connaître et exaucer les besoins des hommes. Mais ce que nous apprend la Bible, c'est justement que Dieu compte sur l'humanité pour réaliser son salut. Et Marie, c'est la figure imminente de cette humanité qui agit pour le salut. Voilà. C'est pourquoi il a donné Marie comme mère à l'humanité et comme figure de l'Église. Voilà. En fait, Marie, elle continue à nous aider. Bien sûr, Dieu, il sait ce dont on a besoin, mais en fait, il a fait le choix de laisser à Marie le fait de nous accompagner. Et ça s'est vécu au pied de la croix, vous le savez, hein, quand il a dit à Jean, voici ta mère, aux disciples que Jésus aimait, et à tous les disciples que Jésus aime, il leur a donné Marie pour mère. Voilà. Douzième, Marie, justement, elle est présente au pied de la croix pour accueillir le don de son fils. Elle recueille dans les larmes ce corps donné au monde, et donc elle est la figure de la miséricorde de Dieu. Marie, c'est celle qui sait le mieux pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous. Je ne sais pas si parfois on vous a demandé qu'est-ce que ça change le fait que Jésus soit mort sur la croix pour nous. C'est pas très facile de répondre à cette question. C'est un peu théologique. Voilà. Eh bien, en fait, Jésus a donné sa vie pour nous parce que si, après avoir montré la générosité de Dieu à tout le monde, après avoir dit qu'il aimait les pécheurs et tout ça, il était parti en disparaissant, monté au ciel, ben on serait resté bien embêté. On aurait dit, ben on a eu des très belles paroles, mais qu'est-ce que ça change pour nous? Tandis que si le Christ est resté avec nous jusqu'au bout, qu'il a vécu ce que nous-mêmes nous vivons, l'expérience de la souffrance, de la mort, y compris rejeté par tout le monde, donnant son pardon au monde, et que une fois mort, 3 jours après, il est ressuscité, qu'il est apparu à ses disciples, on se dit, ben là, Seigneur, c'est la libération. C'est un chemin pour tout le monde. Alors évidemment, ça reste quelque chose de difficile à comprendre, ça reste de l'ordre du mystère, mais Marie, c'est celle qui peut nous expliquer ça. Alors quand vous avez du mal à comprendre, ben méditez, comme tout à l'heure, les mystères douloureux avec Marie. Marie, elle va nous aider à comprendre ce beau mystère de la foi. Le Christ a donné sa vie pour nous sauver. Marie, c'est celle aussi qui nous aide à accueillir l'Esprit Saint dans notre vie. Puisqu'elle était là à la Pentecôte, elle a assisté à la scène. On aimerait bien parfois assister à la scène. Elle a assisté à la scène. Et c'est elle qui peut nous aider à comprendre le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie. Elle a accueilli l'Esprit Saint dans son corps. Ça lui a permis d'ouvrir son corps à l'accueil de Jésus. Elle a à nouveau accueilli l'Esprit Saint avec les apôtres à la Pentecôte pour que cet Esprit Saint se diffuse à toute l'humanité après être né dans un corps, après avoir pris chair dans un peuple bien particulier. Désormais, l'Esprit Saint est donné à nous tous, à toute l'humanité. Et Marie, c'est celle qui nous apprend tout simplement à accueillir cela. Marie, avant-dernière, Marie, c'est la figure de l'Église. Voilà. Marie, c'est aussi elle qui nous aide à cheminer, à avancer en Église. Vous voyez, en ce moment, ben, l'Église, elle traverse des épreuves. Elle traverse des épreuves, elle est marquée par son péché, par ses limites, voilà, par des difficultés. On s'aperçoit qu'elle est vraiment faite d'hommes, et même parmi les prêtres, parmi les évêques, voilà, il y a des pécheurs. On pourrait se dire, mais si c'est ça l'Église, ça vaut pas la peine. Mais non, mais Marie, elle nous dit, ça vaut la peine. Marie, c'est elle la mère de l'Église, c'est elle la figure de l'Église, c'est elle qui nous rappelle ce que l'Église doit être, c'est elle qui a un chemin, c'est elle qui nous aide à avoir tout simplement une attitude d'humilité, de miséricorde pour repartir avec le Christ. Et on va y arriver parce que Marie est là, Marie veille sur nous, Marie est la mère de l'Église. Et enfin, Marie, c'est celle qui rassemble à travers tous les sanctuaires du monde qui lui sont dédiés, tant de personnes qui sont faibles, malades, ou même des personnes bien portantes, mais qui trouvent en elles une protection, un chemin de réconciliation, y compris des non-chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de non-chrétiens, des bouddhistes, des musulmans qui fréquentent les sanctuaires mariaux, les temples dédiés à Marie. Marie, c'est celle qui rassemble toute l'humanité, c'est celle qui nous unit tous. Alors, je suis sûr que vous avez tous retenu les 15 raisons pour lesquelles on peut prier Marie, mais peut-être pas les 15, mais au moins une ou deux dans votre cœur. Gardez-les précieusement, parce que pendant tout ce temps d'avant, Marie va nous accompagner et nous aider à accueillir le Christ qui vient. Amen.